Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit notre Seigneur dans son discours après la scène, ce magnifique discours après la scène, Saint Jean chapitre 15, verset 5. Donc sans moi, vous ne pouvez rien faire qui soit utile pour le ciel. Bien sûr, pour le ciel. Ça veut dire, on vous a parlé de la grâce tout à l'heure, ou ce matin plus exactement. Eh bien, il faut la grâce pour aller au ciel. Ça, vous le savez, c'est la grâce sanctifiante, hein, être en état de grâce. Mais aussi, il nous faut ce qu'on appelle la grâce actuelle, c'est-à-dire ces secours passagers que Dieu nous donne pour nous aider à faire le bien, éviter le mal. Et cette grâce actuelle, ces secours, nous sont aussi nécessaires pour aller au ciel. Mais il faut y coopérer, il faut être fidèle à cette grâce. Et comment faire pour obtenir ces grâces dont nous avons besoin et pour y coopérer? Comment faire? Eh bien, il n'y a qu'une seule chose, c'est prier. Donc, c'est la prière. Donc, nous allons parler de la prière et de l'oraison. Alors, qu'est-ce que c'est que la prière? Nature de la prière. Si on en donne une définition, oh, il y a des définitions classiques hein, que vous connaissez certainement. C'est l'élévation de notre âme vers Dieu. Ça, c'est la définition classique de la prière. La prière est une élévation de notre âme vers Dieu en vue de lui rendre nos devoirs et de lui demander ses grâces afin de devenir meilleur pour sa gloire. Voilà pourquoi on va prier. Alors, élévation, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, par la prière, on peut dire que notre âme s'élève du fond, c'est-à-dire de son néant, de créature, vers son créateur. Vous voyez, nous sommes une créature de Dieu, eh bien, nous allons vers notre créateur. Donc, ce mouvement de la créature vers le créateur, on appelle ça une élévation. On s'élève vers notre créateur. Et donc, notre âme monte jusqu'à Dieu, à qui elle doit tout et de qui elle dépend. Donc, ça, évidemment, quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Et de même qu'avant d'exposer souvent des requêtes ou une demande à des personnes, on salue la personne, eh bien c'est vrai qu'avant de demander quelque chose à Dieu, il va falloir l'adorer. On va exposer ses requêtes au bon Dieu, mais avant, on le salue. Et qu'est-ce que c'est que saluer Dieu? C'est l'adorer. Donc on va voir tout de suite le but de la prière, ça va être adorer Dieu et ensuite lui demander ce dont nous avons besoin. Donc les deux buts de la prière. Adoration, c'est effectivement le premier sentiment qui s'impose quand on s'élève vers Dieu. Parce que notre prière s'adresse au souverain maître. Et ça, bien sûr, toujours se le rappeler. Dieu, ce n'est pas un copain. C'est un père, oui, mais c'est aussi notre maître. Donc nous devons bien sûr l'adorer. Voilà ce que dit Bossuet, une citation de Bossuet. L'adoration est une reconnaissance en Dieu de sa plus haute souveraineté et en nous de la plus profonde dépendance. C'est ça. On reconnaît en Dieu qu'il est souverain maître et en nous, on reconnaît que nous dépendons totalement de Dieu. Voilà ce que c'est que l'adoration. Oui, on adore Dieu. On reconnaît qu'on dépend entièrement de lui, que sans lui nous ne pouvons rien faire. Et tout de suite ce mouvement d'adoration, si vous voulez, automatiquement, va être suivi de la reconnaissance aussi. On adore Dieu, on voit qu'on dépend de lui entièrement, et automatiquement on va remercier Dieu de tout ce qu'il nous a donné. Parce que Dieu non seulement est notre souverain maître, mais encore un insigne bienfaiteur à qui nous devons tout ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, que ce soit dans l'ordre de la nature ou dans l'ordre de la grâce, nous le devons à Dieu. Et donc, automatiquement, il y a ce mouvement de reconnaissance perpétuelle. Parce que Dieu toujours nous donne de nouveaux bienfaits. Toujours. Ne serait-ce que de nous maintenir dans l'existence. Bien sûr, il nous a créés. en coopération, j'allais dire, avec nos parents, mais il a créé notre âme, et en même temps, il nous maintient dans l'existence. Et là, ben, c'est source de reconnaissance. Déjà, le fait que nous puissions encore vivre pour pouvoir l'adorer, le remercier, l'honorer, etc., faire sa volonté. Vous voyez, adoration qui va entraîner un mouvement de reconnaissance, mais ensuite aussi, tout de suite, quel mouvement va suivre cette reconnaissance? Eh bien, dans notre état de nature déchu, c'est-à-dire après le péché originel et après nos propres péchés, eh bien, un troisième devoir va s'imposer, ça va être celui de l'expiation, celui de la réparation. Pourquoi? Parce que nous avons offensé l'infinie majesté divine. Et oui. Et en plus, on s'est même servi de ses dons pour l'offenser, ce qui est le comble de l'injustice. Et cette injustice, bien sûr, va demander réparation. Réparation d'entre ses actes principaux, bon, humble aveu de ses fautes, on avoue humblement nos fautes, on en a la contrition, le regret sincère, et puis ensuite, eh bien, on accepte courageusement bien les épreuves qui peuvent nous arriver pour réparer précisément les fautes que nous avons pu commettre. Donc, ayons aussi cette vision des épreuves qui peuvent nous arriver en disant, bah, mon Dieu, je vous les offre pour réparer un peu les fautes que j'ai pu commettre. Donc, vous voyez, cette adoration, cette prière, cette élévation de notre âme vers Dieu, donc ce mouvement d'adoration entraîne tout de suite aussi la reconnaissance, l'action de grâce et en même temps le regret de nos fautes, l'expiation de nos fautes. Donc ça, c'était ce but d'adoration dans la prière. Et l'autre but, évidemment, c'est aussi la demande. Donc ce but de la prière, on prie pour demander. Et là, certains, de temps en temps, on a un peu de mal en disant « Oh, j'ai l'impression que quand je prie, je ne fais que demander, donc c'est bizarre quand même. » Mais réfléchissez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, eh bien, vous rendez hommage à Dieu, à quoi? À sa puissance, à sa volonté, à l'efficacité de sa grâce, et vous faites un acte de confiance en Dieu. Parce que si vous lui demandez, ça montre qu'il peut vous le demander, vous l'assurer, enfin, vous donner ce que vous demandez. Donc, on a confiance dans sa puissance, il peut nous le donner, confiance dans sa bonté, il est bon, donc il peut nous accorder ce que nous lui demandons. On croit aussi en l'efficacité de sa grâce, si je demande telle grâce, elle va être efficace, elle va me changer, elle va pouvoir m'obtenir telle ou telle chose que je demande. Et donc aussi, c'est un acte de confiance, on fait confiance en Dieu. Vous voyez, la prière, le fait de demander aussi est un bel hommage rendu à Dieu. Ne l'oublions pas. Et pourquoi nous demandons à Dieu? Quel va être le fondement de cette prière de demande? Eh bien, ça va être l'amour de Dieu pour ses créatures, pour ses enfants. Nous allons demander à Dieu parce qu'effectivement, on sait que Dieu aime ses créatures et qu'il veut leur bien. Et puis aussi, eh bien, nous avons un besoin urgent de son secours. C'est ce qui nous fait demander, ce qui nous fait prier. Nous avons besoin de son secours. Et on sait que Dieu nous aime. Et en plus, Dieu nous invite à demander ses grâces. Et en plus, mais en même temps, il nous promet de les accorder. Et ça, quand vous êtes un peu découragé, relisez ce passage. Donc, c'est dans le discours sur la montagne de notre Seigneur, c'est Saint Matthieu, chapitre 7, versets 7 et suivants. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? On l'oublie un peu trop, cela. Alors, on va en parler, parce que vous, votre problème, vous allez me faire l'objection, mais j'ai déjà demandé et j'ai toujours pas reçu. Toujours ce qu'on se dit. Mais pourtant, j'ai fait ça, je vous assure. J'ai demandé une fois et puis je n'ai pas obtenu. Bon, Mais notre Seigneur dit frapper aussi. On vous ouvrira. C'est-à-dire que ça ne suppose pas de demander une seule fois. Bon, bref. Mais voyez, aussi le bon Dieu, il nous dit, voyez, vous êtes même vous à vos enfants, quand votre enfant vous demande, ah, c'est le goûter, je voudrais un morceau de chocolat avec du pain et du chocolat, ben, vous n'allez pas lui donner une pierre, non. Bien, voyez, le bon Dieu, il fait pareil avec nous, hein, si on lui demande. Vous voyez, lui-même, le bon Dieu, nous incite à demander. Alors, à ce niveau-là, donc, il nous dit, oui, parce que nous avons besoin de secours dans l'ordre naturel et dans l'ordre surnaturel. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à demander, bah, que ce soit effectivement dans l'ordre naturel, la santé, si quelqu'un est au chômage, trouver un travail, tout ça, c'est légitime. Hein. On peut demander tout cela au bon Dieu, évidemment. Puis, bien sûr, dans l'ordre surnaturel, bien, vous connaissez tout ce dont nous avons besoin, lumière, courage, force, etc. Donc, là aussi, vous savez qu'est-ce qu'il faut demander. Mais vous pouvez sans doute faire une objection. Une objection qu'on entend de temps en temps, puisque là je vous dis, demandez, vous recevrez, etc. L'objection, c'est de dire, pourquoi prier ? Pourquoi prier ? Il n'y a pas besoin de prier, parce que par sa science, Dieu connaît tout ce qui nous est nécessaire et utile. Comme Dieu sait tout, il connaît tout. Alors pourquoi prier ? Puisqu'il sait que j'ai besoin de cela. Alors, pourquoi prier ? Donc finalement, si on ne priait pas, on aurait encore un peu plus de temps libre. Donc ce ne serait pas si mal que ça. Donc je n'ai pas besoin de prier parce qu'effectivement, Dieu sait tout. Dieu sait tout, il sait ce dont j'ai besoin. Ben, alors il n'y a qu'à me le donner. Qu'est-ce que répondre ? Qu'est-ce que vous allez répondre ? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça ? Eh bien, c'est vrai que par libéralité, par pure libéralité, Dieu nous accorde beaucoup de choses que nous ne lui avons pas demandées. C'est vrai. Donc c'est vrai que Dieu nous a donné beaucoup de choses que nous ne lui avons pas demandées. Déjà, la grâce du baptême. Il nous a obtenu cette grâce du baptême, on ne lui a pas demandé. Non, donc c'est purement gratuit. Donc c'est purement gratuit que nous sommes devenus enfants de Dieu et de l'Église. Oui, donc là, vous voyez, Dieu nous donne effectivement beaucoup de choses que nous ne lui demandons pas. Mais il en est d'autres qu'il ne veut accorder qu'à la prière, et cela pour notre bien, pour que nous mettions notre confiance en lui, et donc que nous le reconnaissions comme l'auteur de tous les biens. Donc oui, il y a des choses qu'il va nous accorder que par notre prière, et que si nous prions pas, il nous donnera pas, il nous accordera pas. Parce que précisément, il veut que nous mettions notre confiance en lui. Et donc, effectivement, qu'on le reconnaisse comme l'auteur de tous nos biens. Ainsi, eh bien, nous serons moins exposés à oublier Dieu, tout simplement. Déjà, par expérience, on est déjà porté à facilement à l'oublier que trop. Alors, imaginez que nous n'ayons pas besoin de recourir à lui dans notre détresse. Eh bien, on l'aurait complètement oublié. Donc c'est vraiment à bon droit que Dieu exige de nous la prière, hein, sous forme de demande. Même si effectivement il sait tout ce dont nous avons besoin, mais néanmoins c'est pour notre bien qu'il exige que nous lui demandions ce dont nous avons besoin. Oui, c'est vraiment pour notre bien, pour que nous ne l'oublions pas précisément. Voilà, rappeler quelques vérités sur la nature de la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière ? Cette élévation de notre âme vers Dieu, l'adoration, la demande. Mais est-ce que la prière est nécessaire ? Oui, c'est notre Seigneur là aussi qui nous le dit. Veillez donc et priez en tout temps. C'est dans Saint Luc, chapitre 21, verset 36. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps. Priez en tout temps. Il faut toujours prier. Pourquoi cette nécessité de la prière ? Bien, elle est fondée, comme je le disais au départ, sur la nécessité de la grâce actuelle. Vous voyez, ce secours dont nous avons besoin. Parce que sans la grâce, on ne peut pas se sauver. Et pour obtenir la grâce, il faut prier. D'où la nécessité de la prière. À part la première grâce, hein, qui nous est accordée gratuitement, sans que nous prions, comme je vous l'ai dit, le baptême pour nous, eh bien, la prière est le moyen normal, prière, moyen normal, efficace, universel, par lequel Dieu veut que nous obtenions les grâces actuelles, toutes ces grâces qui nous sont nécessaires. Et notre Seigneur rappelle cette nécessité de la prière, surtout quand il s'agit de résister à la tentation. Et ça, il va le dire à ses apôtres au moment de son agonie. Vous trouvez ça dans Saint Matthieu, chapitre 26, verset 41. Donc, son agonie, mon Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne loin de moi, cependant, mais comme vous voulez. Il vient vers ses disciples et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » Vous voyez, notre Seigneur nous fait un ordre. Oui, si vous ne voulez pas succomber à la tentation, il faut prier. Et c'est ainsi d'ailleurs que toute confiance qui n'est pas fondée sur la prière est présomptueuse. Si vous allez dire, ah, je suis capable par moi-même de résister aux tentations, etc. Eh bien, vous êtes sûr de tomber. Bon, c'est l'exemple de Saint-Pierre. On en reparlera dans la Passion de notre Seigneur. Saint-Pierre, eh bien oui, il a été présomptueux. Il s'est mis en occasion de péché et il est tombé. Il a nié son maître. Non, notre Seigneur dit, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Parce que Dieu, bien sûr, qui ne nous doit point sa grâce en justice. Donc Dieu ne nous doit pas la grâce, c'est clair. Il n'a pas une obligation à nous la donner. Néanmoins, il s'est engagé à nous la donner si nous lui demandons avec instance. Et là aussi, notre Seigneur a toujours pratiqué ce qu'il nous demande de faire. Et regardez, relisez les évangiles, vous trouverez notre Seigneur prier sans arrêt. Vous voyez, notre Seigneur priait en secret, tout seul dans la montagne, il se retirait tout seul, il priait en secret. Il priait en public, devant ses apôtres, devant la foule, il priait en tout lieu, partout. La nuit aussi, avant de choisir ses apôtres, il va prier. Avant un miracle, d'ailleurs avant la résurrection de Lazare, il prie. Là aussi, vous avez ça, c'est dans Saint Jean 11, 41. Père, je vous rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que vous m'écoutez toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que vous m'avez envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Donc avant ce grand miracle de la résurrection de Lazare, il va prier, il prie en public. Il montre aux gens qu'il prie. Donc nécessité de la prière. Mais on arrive bien sûr peut-être à la question qui vous intéresse en disant, eh bien je prie, mais je ne suis pas exaucé. J'ai beau faire ce que notre Seigneur nous demande, et puis je ne vois pas d'effet. Alors précisément, quelles sont les conditions essentielles pour la prière, de la prière? Comment faire pour être exaucé? Eh bien, il y a d'abord une condition, bien sûr, du côté de ce que nous demandons, du côté de ce qu'on appelle l'objet de la prière. Bien sûr, la condition la plus importante de ce côté, c'est de demander que les biens qui nous conduisent à la vie éternelle, donc les grâces surnaturelles. Ça, c'est la première chose. Si vous demandez ces grâces surnaturelles qui vous conduisent à la vie surnaturelle, alors oui, vous serez exaucé. Et puis, secondairement, tous les autres biens, les demander que dans la mesure où ils sont utiles pour notre salut, dans la mesure où ils ne s'opposent pas à notre salut. Et là, ce sont les biens de l'ordre temporel. Effectivement, on peut les demander, comme je vous l'ai dit, la santé, un travail, une situation, enfin bref, tout ce que nous connaissons dans l'ordre temporel. Nous pouvons le demander à la condition, effectivement, que ça ne soit pas opposé à notre salut. Et cette règle, elle a été posée par notre Seigneur lui-même. Là, vous avez ça dans Saint Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, les biens de l'ordre surnaturel. Et ensuite, tout le reste, eh bien, vous sera donné par surcroît. Donc, il ne faut pas qu'il y ait cette opposition. Demandons les biens temporels dans la mesure où ils sont utiles à notre salut et non pas dangereux. Bon, là, peut-être les anciennes, vous connaissez les exemples que j'avais pris à ce sujet-là pour expliquer ça. Si je parlais à des hommes, quel exemple j'aurais pris? Je dis, bah, écoutez, je prie pour demander une voiture de sport, une Porsche. Mon Dieu, faites que je puisse avoir une Porsche. Parce qu'avec une Porsche, bah, vous imaginez la vitesse. Vous imaginez, comme ça, on peut doubler, clac, clac, rapidement, là, sur l'autoroute, tac, tac, comme ça. Et puis, vous vous rendez compte, la vitesse. Donc ça, l'envie de la puissance, on appuie légèrement sur la pédale et déjà, oh, on monte déjà à 250 à l'heure. Non. Oui, ça, ils rêvent de ça. Bon, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des femmes, donc quel exemple prendre? Parce que si, oui, on disait, oui, Porsche, pourquoi le bon Dieu ne vous donne pas une Porsche? Ben parce que vous risquez de mettre votre vie en danger. Ben oui, vous risquez de, d'abord par orgueil, vous allez pécher par orgueil, oui, moi j'ai la Porsche, puis regardez ça. Et puis vous pouvez mettre votre vie en danger, donc le bon Dieu ne vous donne pas cette Porsche, ne permet pas que vous ayez cette Porsche. Bon, pour vous mesdames, qu'est-ce qu'il faut prendre? Alors j'ai pris l'exemple, vous le connaissez parce que j'ai déjà dit, c'est vrai qu'une fois ça m'avait frappé en arrivant à Vienne, en Autriche. Quand on va de l'aéroport à la ville, il y a à un moment une grande affiche publicitaire pour un musée. Et c'est le musée, donc vous avez une personne qui représente son musée. C'est qui? C'est l'impératrice Sissi. Et vous voyez Sissi, évidemment, dans une superbe robe, avec plein de colliers, des bijoux, des joyaux sur la tête, des bagues partout, etc. Donc je dis, ben voilà, peut-être que vous, votre rêve, c'est d'avoir une robe comme Sissi, quoi, de belles robes, de beaux bijoux, hein, magnifiques, pas du toc, mais du vrai, hein, de l'or, des perles rares et compagnie. Alors vous priez tous les jours pour avoir cela. Et puis vous avez beau prier, et ben vous passez d'argent pour acheter ça. Alors le bon Dieu ne veut pas que vous ayez ces bijoux. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce que si vous permettez d'avoir ces bijoux, eh bien, ça serait dangereux pour votre salut. Parce que peut-être justement, ben, vous seriez rempli de vanité, etc. Vous voudriez orgueil, etc. Vous voulez qu'on vous admire pour vos bijoux, etc. Ben non, le bon Dieu ne permet pas. Voilà. Donc vous voyez, demandez les biens temporels que dans la mesure où ils sont utiles à notre salut. Voilà une des règles premières, hein, au niveau de l'objet de notre prière. Et quand on demande telle ou telle grâce particulière, eh bien, il faut la demander en conformité, évidemment, avec cette volonté de Dieu. Parce que Dieu sait mieux que moi ce qui me convient. Donc, toujours cette idée. Bien sûr, demander une chose mauvaise dans la prière, c'est commettre un péché, voire un blasphème. Et vous imaginez la... La mère de famille, ah, j'ai appris que mon petit, il allait braquer la banque. Alors, ben, je suis allé mettre un cierge à Notre-Dame pour que ça réussisse. Là, non, là, ça, c'est pas vraiment dans l'ordre. Bon. Voilà, donc vous voyez, première condition par rapport à l'objet de notre prière. Alors évidemment, peut-être réfléchissez déjà, est-ce que vous demandez c'est quelque chose en conformité à la volonté divine? Ensuite, condition par rapport au sujet, c'est-à-dire par rapport à vous-même. Comment faut-il demander? Quelles sont les vertus et la manière de demander? Première, l'humilité. Ça, c'est sûr, c'est la première condition. Prier avec humilité, c'est prier avec un sentiment profond de notre indigence, de notre impuissance, de notre indignité. Nous sommes des mendiants. Et oui, nous mendions quelque chose à Dieu. Donc, on ne doit pas être orgueilleux, plein de vanité. Et là, ben, vous avez évidemment la parabole que vous avez entendue dimanche. Le pharisien et le publicain. C'est l'exemple typique. Voyez, ce pharisien qui prie avec orgueil. Merci Seigneur de ne pas m'avoir fait comme ce publicain qui est, etc., etc. Merci mon Dieu de ne pas m'avoir fait comme ce moderniste qui n'a rien compris sur la crise de l'Église. Merci de m'avoir fait comprendre ce que c'est que la Sainte Messe, pas lui qui communie dans la main, je ne suis pas comme ce vil mécréant qui communie dans la main. Merci Seigneur. Qu'est-ce que dit notre Seigneur sur le pharisien ? Eh bien, il ne sera pas justifié. Tandis que le publicain, le pauvre pécheur, « Pardon, Seigneur, je suis qu'un pauvre pécheur, je vous demande pardon. Oui, Seigneur, pardonnez-moi. » Alors, celui-ci redescendit justifié. Parce qu'il est humble. Alors, attention, hein, l'humilité, condition fondamentale dans la prière. Donc, si nous sommes orgueilleux, vaniteux, et que nous méprisons le prochain, ça, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas exaucé. Ça, c'est clair. C'est clair. Non, premier sentiment, l'humilité. Première vertu, l'humilité. Confiance, ensuite. C'est prier avec la ferme espérance que Dieu nous exaucera. On se base non pas sur nos mérites, « Oh, je suis quelqu'un de bien, je vais certainement obtenir ça de Dieu. » Non, on se fonde sur l'infinie bonté de Dieu et des mérites de Jésus-Christ. C'est ça, prier avec confiance. Non pas, encore une fois, parce que je suis quelqu'un de bien, non, mais parce que Dieu est bon et que Jésus-Christ nous a obtenus par sa mort tous ses mérites. Dieu est miséricorde et se penche sur notre misère. Voyez, donc revoyez ce que je vous ai dit. Si vous, tout méchant que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père dans les cieux. Bien, c'est ça, Dieu est miséricordieux, il se penche sur notre misère. Donc prions avec confiance. Si vous priez en disant de toute façon je suis sûr de ne pas obtenir, bon là c'est sûr, ce n'est pas la peine de prier, c'est évident. Ensuite, une autre condition qui nous manque souvent, la persévérance. La persévérance, prier avec persévérance, c'est ne point se lasser de prier. Si Dieu se fait attendre, il veut que nous sentions mieux la profondeur de notre misère et le prix de sa grâce. Voilà, il se fait attendre, oui, mais c'est pour précisément mieux nous montrer notre misère et le besoin que nous avons de sa grâce et le prix de sa grâce. Alors là, vous avez aussi, dans ces moments un peu de découragement, de déprime, en disant, je ne sais vraiment, je prie et le bon Dieu ne m'exauce pas, vous avez l'exemple de la Cananéenne. J'aime beaucoup cet épisode. Je vais vous le commenter un petit peu. Donc, vous trouvez ça dans Saint Matthieu, chapitre 15, verset 24. Bon, vous le connaissez. Bon, il faut essayer de le remettre bien dans le contexte historique pour bien comprendre quand même le mérite de cette femme. Voici qu'une femme cananéenne étant sortie de ce territoire criait en disant. Donc, femme cananéenne, c'est une païenne, donc Tyr et Sidon, c'est au nord. Notre Seigneur, pour l'instant, est au nord de la Galilée. Et donc, une femme sort de son pays et va rencontrer notre Seigneur. Donc, vous imaginez notre Seigneur, les apôtres qui marchent, peut-être quelques fidèles, disciples, etc. Donc, ils marchent. Et puis, voilà que devant lui arrive cette femme cananéenne. « Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est fort malmenée par un démon. » La pauvre mère de famille qui vient, sa fille est possédée par un démon, elle vient demander à notre Seigneur de la délivrer. Donc elle prie notre Seigneur, elle se met sans doute à genoux devant lui, « Ayez pitié de moi, Seigneur ». Donc elle est là, elle prie notre Seigneur. Et puis, pas un mot. Mais il ne lui répondit pas un mot. Il passe, notre Seigneur passe, il ne la regarde pas. Elle aurait pu se dire, ça commence bien. Non. Premier silence de notre... Il ne dit pas un mot. Il ne la regarde pas, pas un mot. Rien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retrouve maintenant à la queue du groupe. Bon, alors, elle va répéter la prière. Elle va dire, Seigneur, ayez pitié de moi. Seigneur, ayez pitié de moi. Faites quelque chose. Ma fille souffre. Au secours, Seigneur, Seigneur, faites quelque chose. Notre Seigneur continue. Il marche. Il n'entend rien. Il continue. Bon. Ses disciples, s'approchant de notre Seigneur, le priaient. Faites-lui grâce car elle nous poursuit ses cris. Alors là, c'est autre chose. Les apôtres n'ont pas la patience de notre Seigneur. Donc, ils entendent derrière cette femme qui crie. Et au bout de 5 minutes, ça commence à suffire. Ils ont dit, écoutez, ça suffit. Et non, et puis rien à faire, elle crie, elle crie, elle continue à crier. Bon, madame, ça va, on a compris. Non, elle continue. Ayez pitié de moi, Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Pierre, il dit à Jean, allez toi, vas-y, va voir Jésus, dis-lui qu'écoute qu'on n'en peut plus. On n'a pas de boule qui est ici. Alors, bon. À quoi il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors elle, elle est du nord. Elle est de Tyr et de Sidon. Elle dit, et en plus, il est raciste. Il est venu que pour les brebis d'Israël. Et moi, je suis de Tyr et de Sidon, je suis cananéenne, et il ne veut pas s'occuper de moi. Alors là, j'ai un téléphone à la LICRA, on me rappe, procès. Je fais demi-tour et je rentre chez moi. Non. Non. Pourtant, vous voyez, elle a pu se dire, oui, effectivement, je m'en vais. Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant, alors là, elle répond ça, maintenant, je sais ce que je fais, je contourne le groupe, je marche plus vite, je reviens devant, je me mets là et je m'étale par terre. Là, il peut marcher que sur moi. Et se prosternant en disant, Seigneur, venez à mon secours. Alors là, notre Seigneur est obligé de s'arrêter. Bon. Il lui répond, attends, écoutez bien, c'est pas fini. Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et maintenant, il me traite de chien. Et oui, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Ça voulait dire, eh ben oui, effectivement, je ne dois pas donner de la nourriture à vous, mais aux enfants. Et là, elle a pas dit, en plus, maintenant, il m'insulte. Alors, je me lève et je pars, c'est fini. Non, qu'est-ce qu'elle dit ? Oui, Seigneur, dit-elle. Et justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors là, notre Seigneur, il craque. Là, il craque parce que il dit, Jésus lui répondit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. » Et de ce moment, sa fille fut guérie. Et oui, donc elle demanderait, « Mais Seigneur, donnez-moi une petite miette. » C'est vrai, je ne suis pas de vos enfants, je ne suis pas de la maison d'Israël, je suis qu'un petit chien, mais oui, effectivement, donnez-moi une petite miette. Et la petite miette que je vous demande, c'est la guérison de ma fille. Et là, notre Seigneur dit, bah, ta foi est grande. Et il guérit. Eh bien, c'est quand même un bel exemple. Bel exemple de persévérance. Parce que nous, je pense, dès la première fois, on aurait craqué. Ah, il ne me dit rien. Ouais, il ne m'a rien dit. Voyons quand même. Oh. Ah, bah, je m'en vais. Si c'est comme ça, je m'en vais. Eh bien, sa fille n'aurait pas été guérie. Vous voyez, exemple de persévérance. Cananéenne. Autre condition, l'attention. Attention, c'est prier l'esprit occupé de ce qu'on dit à Dieu ou des choses de Dieu. Alors là, on arrive au problème des distractions. Distractions. Je prie, je suis à la messe le dimanche et je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai plein de distractions. Ah, vivement, la fin de ce sermon, il n'arrête pas aujourd'hui. Ah, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui, dis donc, ça fait déjà 3 minutes qu'il parle. Enfin, bref, hein. Ou alors, vous êtes comme ça. Oh ! Mon four ! Vous te mariez à côté, qu'est-ce qu'il y a ton four ? J'ai oublié de l'éteindre. Et alors ? Eh bien, mon canard à l'orange ! Eh bien, ça sera canard au caramel. voilà, non, bah oui, bah tant pis, votre four, bah oui, c'est pas grave, bah, ça sera la prochaine fois. Oh, puis celle-là, dis donc, tiens, t'as vu ce chapeau aujourd'hui ? Oh là là, elle a fait des frais. Waouh, je sais pas où elle a acheté ça, mais oh, non, ça vaut rien, ça c'est au printemps, ça. Enfin... Bon, bref, enfin, je vais pas vous faire le cinéma que vous connaissez par cœur. Donc ça, le cinéma, vous connaissez. Bien. Alors évidemment, devant les distractions, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors déjà, ne pas tomber évidemment dans le reproche que notre Seigneur faisait aux pharisiens. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alors là, quand il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Notre Seigneur vise évidemment les distractions volontaires. Alors, il faut distinguer. Il faut distinguer les distractions involontaires et les distractions volontaires. Alors, distraction involontaire, par définition, c'est celle qu'on ne choisit pas. C'est celle qui arrive sans qu'on ait choisi. C'est, nous essayons de les repousser, mais d'en diminuer le nombre. Alors, celles-ci ne sont pas un obstacle à la prière. On cherche à les repousser, etc. Parce que notre âme, en vertu des efforts que nous faisons, demeure orientée vers Dieu. Vous voyez, notre âme reste orientée vers Dieu. Bon, il y a ces distractions qui arrivent. Bon, puis on les chasse, on revient à l'objet de notre prière. On considère ça comme des mouches, des moustiques. Ben, on les chasse. C'est ça. Voilà, ben, c'est ça les distractions involontaires. Dans ce cas-là, ne vous en inquiétez pas. Parce que votre esprit reste orienté vers le bon Dieu. Et le bon Dieu voit vos efforts. Donc, vous avez des mérites. Les distractions volontaires, elles, c'est celles qu'on accepte ou celles qu'on provoque. Donc, c'est on les accepte de propos délibérés. Oui, c'est vrai. Bon, maintenant, ça suffit, j'ai assez prié. Donc maintenant, je pense qu'est-ce que je fais après la messe, etc. Donc vraiment, voilà, c'est de propos délibérés, on fait exprès. Eh bien, on n'en supprime pas les causes. Hein, on ne cherche pas du tout à les repousser. Dans ce cas-là, ça peut être des fautes vénielles, évidemment, quand c'est des prières de précepte. Par exemple, l'assistance à la messe de dimanche, on fait exprès d'être distrait. Alors, évidemment, ça peut être une faute, un péché véniel. Ou alors, dans des prières privées, bon, ça peut être des négligences, en tout cas des manques de respect envers Dieu, évidemment, hein, qui, dans ce cas-là, on ne le prédispose pas à nous exaucer. Alors, que faire? Voilà ce que dit un auteur spirituel devant ces distractions. Il faut faire donc des efforts sérieux pour repousser promptement, énergiquement les distractions qui se présentent à nous, savoir nous en humilier et en profiter pour renouveler notre union avec Jésus et prier avec lui. Il faut aussi diminuer le nombre de nos distractions en combattant vigoureusement contre leurs causes, la dissipation habituelle de l'esprit, l'habitude de la rêverie, les préoccupations et attaches qui captivent l'esprit et le cœur, et s'accoutumer peu à peu aux souvenirs fréquemment renouvelés de la présence de Dieu par l'offrande de ses actions et de pieuses oraisons jaculatoires. Quand nous avons pris ces moyens, il n'y a pas lieu de s'inquiéter des distractions involontaires qui traversent notre esprit ou troublent notre imagination. Ce sont des épreuves, non des fautes, et quand nous savons en profiter, elles augmentent nos mérites et la valeur de nos prières. » Donc voilà, ne pas s'en inquiéter, mais les chasser tout simplement. Donc ça, c'est vrai, c'est l'attention dans la prière, à faire attention à ce que nous disons, l'esprit occupé de ce que nous disons à Dieu. Et puis, bien, dernière objection, évidemment, si Dieu refuse ou diffère de nous exaucer, grande question, pourquoi ne sommes-nous pas exaucés? Eh bien, croyons premièrement peut-être que nous demandons mal. Vous voyez les conditions que je vous ai rappelées. Eh bien, voyez si vous remplissez ces conditions. Ou nous prions mal, ou alors peut-être est-il utile que Dieu ne nous exauce pas. Et voir en tout cas ces refus ou ces lenteurs de Dieu comme un témoignage de sa miséricorde, parce que Dieu sait mieux que nous ce qui nous est bon. Et aussi toujours revenir à cette bonté de Dieu. Dieu sait mieux que nous ce qui nous est bon, ce qui nous est utile. Et puis, nous convaincre que dans ces cas où les prières ne sont pas exaucées ou semblent ne pas être exaucées, eh bien que de toute façon, nos prières bien faites n'en sont pas moins méritoires. Et que Dieu les exauce d'une manière avantageuse à sa gloire et pour notre salut. De toute façon, Dieu va les exaucer peut-être de manière différente que celle que nous espérions, mais néanmoins, il va nous obtenir d'autres grâces. Prenez l'exemple de l'enfant, là aussi c'est un exemple classique, de l'enfant qui va avec son père et son père lui dit, ben voilà, je vais t'acheter un cadeau. Alors voilà, tu as été bon, je sais pas, sage, bon à l'école, tout ce que tu veux. Voilà, je t'ai promis un cadeau, je vais t'acheter un cadeau. Alors, puis l'enfant, ben voilà, il passe et puis voilà, qui tombe sur une armurerie. Et puis voilà le petit garçon qui dit « Oh papa, t'as vu le pistolet? Oh papa, je veux ce pistolet-là. Oh oui, ça sera bien, je pourrais jouer avec mes camarades avec ce pistolet. » Bon, si le père, bien sûr, est conscient, il ne va pas lui acheter ce pistolet. C'est évident. Avec des balles réelles et tout, non. Qu'est-ce qu'il va faire? Écoute, viens, je vais te donner quelque chose d'autre. Et puis, il va lui acheter, je ne sais pas quoi, une bicyclette ou une voiture, ou etc., une petite voiture, enfin bref. Mais il ne va pas lui donner ce revolver. Eh bien, le bon Dieu, c'est pareil. Peut-être que nous lui demandons telle chose, mais on risque de mal l'utiliser ou ce n'est pas utile pour notre salut. Alors, il nous donne autre chose. Et souvent, le problème, c'est qu'on ne réalise pas cette autre chose. Et peut-être, de temps en temps, quand on a un retour en arrière, on se rend compte, finalement, on a eu telle ou telle grâce. Et puis qu'on ne l'avait pas demandé au bon Dieu, cette grâce. Et peut-être, il nous l'a accordée parce que nous lui avions demandé autre chose et que finalement, nos prières étaient bien faites. Il nous a, lui, donné au contraire cette grâce-là. Donc, en tout cas, ne nous décourageons pas. Revenons toujours à cette miséricorde de Dieu. Dieu ne nous ment pas. Et puis, pour enchaîner un petit peu sur l'oraison, pour terminer un peu sur l'oraison, qu'est-ce que c'est que l'oraison? Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a bien sûr la prière vocale, c'est-à-dire celle qui est exprimée par nos lèvres, par des paroles. Donc nos paroles expriment les pensées de notre esprit, hein, les mouvements de notre cœur. Bien sûr, il faut que ce que nous disons par nos lèvres exprime ce que nous avons dans le cœur. Donc vous avez la prière privée, quand on récite nos prières en famille ou prières le chapelet, et puis la prière publique faite au nom de l'Église, hein, qui est bien sûr la plus parfaite, bon, la Sainte Messe évidemment, les vêpres, enfin l'office du bréviaire, etc. Et puis vous avez ce qu'on appelle la prière mentale, c'est-à-dire l'esprit et le cœur s'appliquent aux choses de Dieu sans le secours des paroles. Et c'est ça l'oraison. L'oraison, c'est une prière qu'on appelle mentale. C'est notre esprit qui prie sans le secours des paroles. Alors, parlons un petit peu de l'oraison quand même. C'est notre Seigneur qui nous incite à le faire. Vous voyez ce qu'il dit, Saint Matthieu, chapitre 6, verset 6. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, vous voyez, on va prier tout seul. De temps en temps, au contraire, le bon Dieu va nous demander de prier en commun. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ça, le bon Dieu loue la prière commune, mais aussi de temps en temps, il nous demande de prier seul. Et ça, on peut très bien y voir précisément l'oraison. Comment définir l'oraison ? Parce que souvent, ça nous fait peut-être un peu peur, on ne sait pas. De temps en temps, on voit peut-être des prêtres, des frères, des religieux, des religieuses qui prient comme ça à la chapelle. On se demande ce qu'ils font. Mais non, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Bien, une définition très simple, c'est l'entretien de l'enfant de Dieu avec son Père céleste. Il ne faut pas chercher des choses compliquées. Se dire, oui, l'oraison, c'est ça. C'est l'entretien de l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu et je parle avec mon Père des cieux, mon Père céleste. Elle, Sainte Thérèse d'Avila, disait, « L'oraison mentale n'est autre chose qu'une amitié divine, un entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer. » Ah oui, c'est une belle définition aussi. « N'est autre chose qu'une amitié divine, un entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer. » Eh oui, nous savons que Dieu nous aime, eh bien nous parlons avec lui. Voilà l'oraison. Donc c'est un commerce d'amitié, si vous voulez, par lequel l'âme s'entretient avec Dieu, hein, dont elle se sait aimer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est vraiment voir la simplicité de l'oraison. Bien sûr, au début, il est bon de prendre une méthode, hein, mais les méthodes, c'est comme les béquilles, hein, c'est pour nous aider à marcher. Le jour où on n'a plus besoin de béquilles, ben on les enlève. C'est un peu ça. Donc, bon, il y a différentes manières, de méthodes d'oraison pour éviter un peu les divagations, pour éviter les rêveries, si vous voulez. Oui, donc, il y a de temps en temps, on fixe des méthodes pour mettre les actes essentiels de l'oraison. Bon, vous connaissez celles qui ont fait les exercices de Saint-Ignace, c'est une méthode. Mémoire, intelligence, volonté, etc. Bon, ça, c'est une méthode. Il y en a d'autres. Il y a d'autres méthodes aussi. Vous avez une méthode un peu plus cartusine, qui consiste plutôt à faire des actes de foi, d'espérance, de charité. Voilà, on dit à Dieu notre foi, à notre espérance dans son secours, et puis dans notre acte de charité. Donc ça, en tout cas, ne pas oublier que les raisons dépendent bien sûr de la grâce de Dieu, donc il faut lui demander cette grâce. Et on peut dire que l'oraison doit procéder de l'amour de Dieu et se terminer à lui. C'est vraiment un acte d'amour de Dieu. C'est par amour de Dieu qu'on cherche à le contempler. Et la contemplation de sa bonté, de son amour, augmente en nous cet amour de Dieu. Vous voyez, c'est ça, un peu, cette oraison. Elle procède de l'amour de Dieu et se termine de nouveau à Dieu. Un peu ce cercle. On contemple sa bonté. Par amour de Dieu, par sa grâce, il nous donne cette grâce de le contempler, de le prier. Et en même temps, cette contemplation de Dieu renforce notre amour, augmente cet amour de lui, envers lui. Donc, dans l'oraison, si vous voulez, que faire ? Bien, comme toute prière, il y a d'abord cet acte d'humilité. Ça, il faut toujours commencer par là, acte d'humilité. Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans la grâce de Dieu, qui va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien s'accompagner d'un acte d'adoration, un acte de réparation, si de repentir. Et puis ensuite, on peut faire un acte de foi profond sur telle ou telle vérité de notre foi, qu'on a un peu choisi auparavant, Dieu, ses perfections, l'amour de Dieu, notre Seigneur, les mystères de sa vie, si vous êtes attiré plus par l'incarnation, la nativité, ou la passion de notre Seigneur, etc. Ou alors méditer sur nos fins dernières, un jour effectivement, nous paraîtrons devant le bon Dieu, etc. Ou alors la liturgie, sur l'évangile du dimanche, etc. Donc on fait un acte de foi sur telle ou telle vérité. Et cet acte de foi va naître un acte d'espérance. Cette foi, on va compter ensuite sur le secours de Dieu. Et puis de là, ça va se transformer bien sûr en charité, acte de charité. Charité affective, c'est-à-dire « Mon Dieu, je vous aime », on déclare notre amour à Dieu. Et ensuite, ça va se transformer en charité effective. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va nous pousser à prendre quelques résolutions. En disant « Mon Dieu, que votre volonté soit faite, augmentez mon amour, etc. » Et cela va peut-être nous pousser petit à petit à corriger tel ou tel défaut. Donc pensons ainsi à l'oraison. Alors quels sont les avantages de l'oraison? On peut en voir bien sûr, il y a une multitude, plusieurs, je ne vais pas trop m'allonger non plus. Elle va nous détacher surtout du péché, de ses causes. On ne peut pas faire oraison et rester dans une vie de péché, ce n'est pas possible. C'est contradictoire. Elle va nous éclairer sur cette malice du péché. Et donc elle va nous détacher petit à petit bien du monde et de ses faux plaisirs. Elle va nous détacher de nous-mêmes, de notre orgueil, etc. En même temps, elle va fortifier notre volonté. Fortifier notre volonté en disant, oui, je veux servir uniquement Dieu. Et puis, elle va nous aider à pratiquer bien toutes les vertus chrétiennes. Et donc, petit à petit, elle va nous préparer à cette union en Dieu. Donc, je vous dis, on ne peut pas faire oraison et vivre en état de péché. Ce n'est pas possible. Autant, on pourrait réciter tel office, voire même peut-être notre chapelet en restant en état de péché grave. Mais autant, on ne peut pas faire oraison en restant en état de péché grave. Ce n'est pas possible. Tout de suite, ça va nous pousser. Non, je ne peux pas rester, je vais me confesser. Tout de suite. Donc l'oraison est vraiment un moyen de sanctification très efficace. Et il nous est très utile et nécessaire pour notre sanctification, salutaire à tous. Donc ce n'est pas réservé uniquement aux religieux, aux religieuses. Non, on peut tous faire oraison. Et vous avez des exemples de saints qui ont vécu dans le monde qui faisaient oraison. Alors, pour parvenir un peu à cette vie d'oraison, pour faire oraison, demander conseil, bien sûr, mais pratiquer, je vous l'ai dit déjà, l'humilité. Sachez aussi un peu mortifier l'esprit du monde, donc savoir se détacher un peu aussi des biens sensibles de soi-même. Faisons attention aux jalousies, à toutes ces affections trop humaines, etc. Toutes ces affections trop mondaines, trop humaines, tout ça, évidemment, il faut savoir se détacher de cela, pour pouvoir bien faire cette voie d'oraison, parvenir à cette vie d'oraison. Puis dans notre journée, savoir élever notre cœur vers Dieu par des petites oraisons, des petites invocations. Donc ça entretient un petit peu ce climat de recueillement. Et puis préparation immédiate, comme je vous l'ai dit, choisissez un sujet. N'hésitez pas à prendre un livre, demandez conseil aussi à un prêtre qui peut vous aider. Et puis persévérer en ayant confiance, bien sûr, dans la grâce de Dieu et en se laissant conduire par le chemin qu'il a prévu pour nous. Vous avez aussi pendant la retraite, si vous voulez lire ou un peu plus approfondir la vie d'oraison, vous avez dans le Christ vit de l'âme aussi de Don Marmion, un chapitre sur l'oraison. Donc n'hésitez pas à le lire là aussi. Vous voyez ce qu'il dit ? L'oraison est un des moyens les plus nécessaires pour réaliser ici-bas notre union à Dieu et notre imitation du Christ Jésus. Le contact fréquent de l'âme avec Dieu dans la foi par l'oraison et la vie d'oraison aide puissamment à la transformation de notre âme au point de vue surnaturel. L'oraison bien faite, la vie d'oraison est transformante. Bon, après, il y a tout un passage, je ne vais pas vous le lire, parce que le temps passe, mais très beau passage sur cette vie de raison, comment faire raison. Voilà, donc aimons cette vie de prière, cette vie de priant, de raison, pardon. Sachons évidemment l'adapter à notre devoir d'État. C'est clair qu'une mère de famille avec des enfants ne peut pas faire comme une religieuse, c'est évident. Donc n'imposez pas à vos enfants de 4-5 ans une demi-heure de raison. Ce n'est pas possible. Non, donc sachez aussi être réaliste. Vous voyez bien, après c'est plutôt dans le domaine des résolutions. Si vous souhaitez prendre cette résolution de l'oraison, c'est très bien, mais sachez bien l'adapter à votre vie aussi. Autrement, 3 jours après, c'est fini. Cette résolution, elle est abandonnée. Imaginez faire oraison, puis pendant ce temps, les enfants qui courent partout, qui crient, qui hurlent, qui se battent, etc. Non, pendant ce temps, vous êtes pieusement comme ça. Non, ça ne marchera pas. 3 jours après, c'est fini. Non, il faut savoir s'adapter aussi concrètement à votre vie. Donc pour cela, demandez conseil, évidemment. En tout cas, n'oubliez pas que la prière est vraiment la respiration de notre âme. Si nous voulons monter vers le bon Dieu, eh bien, il faut prier. Et sans elle, sans cette vie de prière, eh bien, c'est vraiment l'asphyxie spirituelle. Donc, sachons bien demander au bon Dieu cette grâce de toujours bien prier et d'avoir ce contact fréquent avec lui dans cette vie de prière.